Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Livin Bwinga. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, retour à un calme précaire cet après-midi dans l'ouest de Goma et au sud du territoire de Masisi. Les échanges de tirs d'artillerie opposant l'armée congolaise et les rebelles du M23 qui étaient entendus depuis 6h du matin entre le quartier Mungunga et les collines surplombant Sake ont cessé depuis la mi-journée. Entre-temps, la ville de Beni, toujours au nord Kivu, est confrontée à la hausse du prix de l'essence et cela dure depuis quelques jours. Tenez, le litre passe de 3500 à 4500, voire 5000 francs congolais. Nous en parlons dans ce journal. Et puis cette interrogation, pourquoi plus de 66 000 enfants n'ont pas été vaccinés dans la province de la Tchopo l'année dernière? Réponse avec le coordonnateur du programme élargi de vaccination dans la province. Vous avez compris, Dr Stéphane Itakama est notre invité. Nous commençons ce journal avec ces précisions des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion que les combats contre l'agresseur rwandais se poursuivent sur tous les fronts. C'est ce qu'indique un communiqué publié ce mardi à Kinshasa par le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Selon le communiqué, au sud du territoire de Lubero, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sont contenus et repoussés. D'autres détails sur ce communiqué avec vous, Alain Irung.
Le communiqué note par contre que l'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu. Partout, l'ennemi enregistre d'énormes pertes en hommes et en matériel. Les FARDC appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays, conclut le communiqué.
Sur terrain, je le disais, retour au calme mais précaire, il faut le souligner cet après-midi dans l'ouest de Goma et au sud du territoire de Masisi, au nord Kivu. Les échanges de tirs d'artillerie opposant l'armée congolaise et le rebelle M23 qui étaient entendus depuis 6h du matin entre le quartier Mungunga et les collines surplombant Sake ont donc cessé depuis la mi-journée. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné suite à cette situation ce mardi dans les quartiers Mungunga et Lac Vert. Par ailleurs, la situation reste tendue sur la zone aux abords du lac Kivu où les rebelles du M23 ont occupé Bweremana dans le Masisi et de Minova. À l'issue des combats ce mardi matin contre l'armée congolaise, ils se seraient emparés de Kalungu, du port de Kasunyu et d'autres villages dans le territoire de Calais au sud Kivu. Entre-temps, la situation humanitaire s'est dégradée considérablement dans la région de Calais, Minova et Bweremana, à cheval entre le nord et le sud Kivu. Alors que Minova servait de refuge à des centaines de ménages en provenance de Masisi, aujourd'hui, tous les habitants de la région sont dispersés fuyant les violents combats enregistrés là-bas depuis quelques jours. Plusieurs personnes ont été blessées par balles et des dégâts matériels sont occasionnés par le bombardement d'hier et de ce matin, rapportent nos sources. Sifa Maguru nous en parle en détail.
Nos sources dans la région indiquent que les habitants ont vidé les localités, notamment Luzirantaka, Kachovu, Nganjo, Lumbishi, et ont pris la direction des Iralo, notamment vers Nyabibwe. D'autres habitants ont trouvé refuge vers Butumba, Chondo, Buhanga, sur les presqu'îles de Bulenga, en groupement Buzi, précisément à cheval entre Nzulo et Kituku. La société civile locale ajoute qu'hier, un boat transportant la population et ses biens, fuyant les affrontements en Nova a été sauvé de justesse. Le boat qui le transportait a chaviré à cause de la surcharge. Ce mardi, d'autres habitants de Minova sont arrivés à Goma en passant par Kasunyu sur le lac Kivu. Le port de Kasunyu, qui est également occupé par les rebelles, affirme plusieurs sources. Toutes les activités sont paralysées, notamment les structures sanitaires à Kalungu et Minova qui fonctionnent en service minimum. Les blessés, eux, sont pris en charge par les CICR, affirment nos sources. Goma Massif Amagoro, Radio Okapi.
Puisque nous évoquons le cas de Minova, notez que cette cité du territoire de Calais au sud Kivu s'est réveillée ce mardi sous la présence du M23. La hiérarchie militaire FRDC indique que cette présence sera d'une courte durée. Certains habitants, y compris des déplacés venus récemment du territoire de Massissi au nord Kivu, ont bougé vers la partie sud de Calais centre. D'autres encore sont restés chez eux. Jean Kassami décrit la situation humanitaire de ces milliers de déplacés internes.
Plusieurs familles sont dispersées, les enfants séparés de leurs parents et les adultes de leurs proches. La vulnérabilité s'est accrue. Quand il est vrai que Minova était devenue une plaque tournante d'environ 20 000 personnes qui avaient fui la guerre de Massissi vers Kalehe, ces déplacés vivaient les uns dans des familles d'accueil, les autres dans des infrastructures publiques telles que les écoles et les églises. Bien que Minova soit une zone agricole par excellence, la production locale ne suffisait plus pour nourrir autant de bouches. La société civile de Kalehe ne cesse d'alerter sur la famine qui guette la population locale ainsi que les déplacés. Maintenant, plus que jamais, les besoins se font sentir avec plus d'acuité. Les collines qui surplombent la cité ne sont plus accessibles par les agriculteurs suite à l'insécurité. La ville de Bukavu dépend aussi en grande partie des potentialités agricoles de Minova, 70 km au nord. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Direction Mamove, à 45 km à l'ouest de la ville de Beni, où cette localité retrouve progressivement une vie normale après une série d'attaques des rebelles des ADEF qui ont fait plusieurs morts ici. Cette accalmie est le résultat de la présence des troupes des armées congolaises et ougandaises déployées dans la zone. Cependant, si certains habitants qui avaient fui le milieu ont commencé à y retourner, ils affirment faire face à de nombreuses difficultés comme le manque d'eau potable et des structures sanitaires. Guylaine Kassassia revient de la région. Suivez son reportage.
L'année dernière, Mamove a été la cible de plusieurs attaques de rebelles des ADEF, causant des morts parmi les civils. Depuis, Mamove et ses habitants tentent de retrouver une vie normale, mais la peur est omniprésente. La population qui a longtemps souffert dit n'attendre que le retour total de la paix. Célestin Ngoï, secrétaire administratif de la localité de Mamove.
La population va qu'à ses occupations, mais pas avec beaucoup de tranquillité. Nous ne demandons rien que la sécurité. Nous avons les problèmes d'eau, construction de notre marché. Nous avons aussi les problèmes de la réhabilitation de notre route de desserte agricole. Aussi, il y a des ports en délabrement total.
Depuis les sorties de son centre de santé à 2019, les activités sanitaires tournent au ralenti. Deux femmes enceintes parcourent plus d'une vingtaine de kilomètres pour accoucher à l'hôpital général de référence d'Oicha. Samson Sandi, percepteur comptable des centres de santé de Mamove.
Cet hôpital avait plusieurs chambres que je ne saurais plus maintenant vous expliquer, mais qui abritait tous les services possibles. Les femmes enceintes arrivent, mais les moyens de dire que nous les regroupons quelque part, il n'y a pas moyen.
La localité est réputée pour la production de cacao, de la banane plantain, du manioc, mais aussi de haricots. Beni, Yurinka Sassia, Radio Okapi.
Une vente assez particulière ici à Kinshasa, c'est celle de la vente publique de tous les biens de Corneille Nangaa répertoriés ici dans la capitale. Et ça sera le 30 janvier prochain, annonce faite par le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba. Cette décision entre en exécution de deux arrêts de la Cour militaire et de la Haute Cour militaire ayant condamné l'année dernière l'ancien président de la CENI à la peine de mort pour terrorisme et crimes contre l'humanité. Les deux arrêts de la justice militaire avaient recommandé la confiscation de ces biens et leur vente aux enchères. Une dizaine de ces biens immobiliers déjà confisqués seront vendus publiquement et le produit de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda à la RDC selon un communiqué du ministre de la Justice. L'essence est de plus en plus rare dans la ville de Beni, au nord Kivu, et cela dure depuis quelques jours. Tenez, le litre passe de 3500 à 4500, voire 5000 francs congolais dans certains points de vente. Il faut noter que la rareté de ce produit pétrolier sur le marché local est à la base de cette situation qui affecte gravement la population. Le point avec André Kitenge.
Chez les revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi, le litre se négocie entre 4500 et 5000 francs congolais, alors qu'à la pompe, le prix officiel d'un litre est fixé à 3700 francs congolais. La rareté des produits pétroliers au poste frontalier de Kassindi-Loubiria est à la base de cette hausse, affirment les revendeurs, une situation qui affecte gravement la population. Ainsi, le prix d'une course en taxi-moto est monté en flèche, passant à 2000 francs congolais, voire 4000 francs congolais, contre 1000 francs congolais il y a quelques jours. Luc Machara, le président des pétroliers de la ville de Beni, précise qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans la ville. Il justifie cette situation par l'hésitation de certains opérateurs économiques à se conformer à la nouvelle tarification douanière à partir de Kassindi-Loubiria, porte d'entrée de ce produit. Selon lui, la hausse des prix chez les revendeurs de carburant ne relève que de la pure spéculation. Un avis également partagé par l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane ACAD, qui invite les opérateurs économiques à libérer leurs camions des entrepôts et à se conformer à la nouvelle tarification douanière. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Cette situation de rareté des produits pétroliers est aussi ressentie non loin de là, c'est-à-dire à Bukavu dans le sud Kivu. Là également, ce problème existe depuis quelques jours, mais ce qui diffère entre les deux villes, il n'y a aucune hausse de prix de ces produits au sud Kivu, affirment les pétroliers sur place. Ces opérateurs économiques disent maintenir les prix de la structure émanant du ministère national de l'économie. Rachel Kiesembangou s'est penchée sur cette question. Suivez.
Chez les revendeurs appelés Kadhafi, les prix du carburant est passé de 3500 francs à 5000 francs avec comme conséquence la hausse des prix du transport. La population se plaint. C'est le cas de cette jeune fille.
J'ai remarqué vraiment que le prix du transport avait augmenté. Parce que le trajet de Ngouba jusqu'à la place de la paix, c'est une course de 1000 francs. Mais moi, quand je suis partie là-bas hier, j'ai payé 1500. On m'a dit que c'était à cause du carburant.
Cependant, les pétroliers disent maintenir le prix à 3 776 francs selon la structure en vigueur. Toutefois, le problème reste la rareté du carburant qui impacte le marché local. Urbain Kangé, porte-parole des pétroliers du Sud Kivu.
La situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est la rareté de produits pétroliers sur le marché international. Les pays producteurs n'en produisent pas. Au niveau des pays d'approvisionnement, il n'y a pas de disponibilité de produits pétroliers. Ce qui impacte aussi au niveau local, qui est certaines stations où il n'y a pas de stock. Et là où il y a des stocks, il y a l'engouement déjà pour s'approvisionner.
Il affirme que c'est une situation qui est souvent observée vers les débuts de l'année, car les pays producteurs initient des nouvelles planifications et qu'il faille anticiper cela en disponibilisant des stocks stratégiques pour pallier les carences s'il y en a. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Dans la suite de ce journal, sachez que le quartier Kamaï à Kananga est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Le gouverneur de province a fait ce constat amer hier lundi. Dans cette partie du Kasaï central, certaines érosions de ce quartier où est construit le complexe Athénée Royal en phase de réhabilitation sur fond de la Banque mondiale ont déjà englouti des habitations et continuent leur progression, dont celle de Kamaï Savinkas. Face à cette catastrophe, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambulu, s'engage donc à étouffer la progression de cette érosion sur fonds propres du gouvernement provincial. François Kadima nous en parle.
Plusieurs têtes d'érosion qui menacent le quartier Kamaï nécessitent une intervention. Déjà, certaines habitations ont été englouties dans différents coins. Le complexe Athénée Royal de Kananga, où abrite plus de 5 écoles pour 18 000 élèves, n'est pas épargné par la menace. L'ancienne résidence du prophète Moussoumbo sur l'avenue du Mangué n'existe plus et une autre tête d'érosion qui a déjà touché plusieurs maisons avance vers l'avenue Unako. Vers Kamaï Savinkas, une autre tête d'érosion qui progresse inquiète les habitants de la contrée. Lundi, le gouverneur de province, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, s'est rendu sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Sur place, Joseph Moïse Kambulu s'est engagé à limiter les dégâts de cette situation causée par les eaux de ruissellement provenant de la voie ferrée. L'autorité provinciale a instruit les experts en travaux publics et les services techniques à étudier les possibilités d'attaquer cette tête d'érosion et étouffer sa progression. La population du coin a salué ce passage du gouverneur, soulignant attendre ces solutions urgentes pour sauver leurs habitations. De Kananga, François Kadima, Radio Capi.
Plusieurs routes de dessertes agricoles sont dans un état de délabrement très avancé dans la province du Kwango, constat fait par le président du conseil provincial des paysans du Kwango qui le déplore. D'après Symphorien Kwango, cette situation ne facilite pas la liaison entre les cinq territoires et Kenge, chef-lieu de la province. Conséquence, difficile d'évacuer les produits agricoles de l'intérieur de la province vers les grands centres de consommation. Il pense que cette situation accentue la pauvreté des paysans et plaide pour la modernisation des routes afin de désenclaver ce coin du pays.
Actualité internationale.
À l'étranger, le président américain Donald Trump a signé lundi soir un décret de grâce en faveur de plus de 1500 personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole perpétré le 6 janvier 2021 en les qualifiant d'otages, une insulte au système judiciaire américain, selon l'ex-présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
L'invité.
Plus de 66 000 enfants n'ont pas été vaccinés dans la province de la Tchopo l'année dernière. Plus de 100 autres n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal. Comment peut-on expliquer cette situation et quelle stratégie utiliser pour récupérer ces enfants? Le docteur Stéphane Itakama, coordonnateur du programme élargi de vaccination dans la province de la Tchopo, s'entretient ici avec Jacques Moukonkolé.
Docteur Stéphane Itama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous entendez par la vaccination des routines?
Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. La vaccination des routines en soi, c'est le fait d'administrer le vaccin aux enfants âgés de 0 à 11 mois et avec un calendrier vaccinal ou un programme bien précis. En fait, ça entre dans le cadre d'atteinte des objectifs de développement durable, dans le sens que c'est une vaccination qui est en train d'être réalisée par un programme du pays, qui est le programme élargi de vaccination, avec comme mission d'améliorer l'état de santé de la population à travers les enfants et les femmes enceintes.
Quels sont les vaccins que vous utilisez dans cette catégorie?
Par rapport à la vaccination de routine, nous utilisons le vaccin contre la tuberculose, c'est le BCG pour les enfants. Nous utilisons le pentavalent qu'on appelle communément le DTC HIP. Ça protège contre presque 5 maladies. La diphtérie, le tétanos, il y a même l'hépatite là-dedans. Il y a aussi le vaccin contre la diarrhée qu'on appelle Rotacil. Il y a le vaccin qui lutte contre la fièvre jaune. Il y a le vaccin qui lutte contre la rougeole. Il y a le VPO qui lutte contre la poliomyélite. Il y a le vaccin VAT-TD. Ça, on administre femmes enceintes pour protéger contre probablement le tétanos. En dehors de ça, moins que je n'oublie, mais actuellement, nous avons introduit aussi le vaccin contre la COVID. Après la pandémie à COVID, où on utilisait cette vaccination en mode campagne. Maintenant, nous avons migré en mode routine et ça, on l'utilise aussi. Quand il y a épidémie, on recourt à des vaccins spécifiques.
Comment se présente la situation de la vaccination des routines dans la Tchopo?
La situation de la vaccination dans la province de la Tchopo évolue bon train, malgré les défis auxquels nous nous affrontons dans la mise en œuvre de ces activités en routine.
Docteur Stéphane Itama, quelles sont ces difficultés?
Premièrement, d'abord, c'est lié à l'accessibilité géographique interne dans nos différentes zones de santé, où il y a des zones de santé qui ont des aires de santé qui sont soit riveraines, il y a des aires de santé qui se retrouvent dans des endroits d'insécurité, il y a même des aires de santé qui se retrouvent dans les milieux où il y a des activités plus minières que les activités normales, et ce sont des aires de santé où la population n'est pas stable, elle est nomade. Mais en dehors de ça, nous disions que avec ces contextes sécuritaires d'accès difficile géographiquement et des contextes fluviaux, on fait à ce que la province, après les enquêtes menées par l'école de santé publique, on a révélé que notre province de la Tchopo regorgeait environ 66 000 enfants qui n'étaient pas encore en contact avec nos services de vaccination. C'est des enfants qu'on appelle enfants zéro dose. Et pour les enfants qui avaient commencé, mais qui n'avaient pas terminé leur calendrier vaccinal, on était à environ 101 000 enfants.
avec ses enfants zéro dose, il doit y avoir des conséquences dans la communauté.
Avec cette situation, quand l'immunisation n'est pas encore collective, la conséquence c'est quoi? Nous nous sommes trouvés devant l'émergence de plusieurs maladies évitables par la vaccination. Pour cette année, la province a pu notifier presque 6 cas confirmés de polio dans nos différents territoires, y compris même dans la ville de Kisangani. Dans la province, il y a eu des épidémies de rougeole. Et quand il y a émergence de maladies évitables par la vaccination, c'est qu'il y a un problème d'atteindre les enfants pour les immuniser correctement.
Quelle stratégie utilisez-vous pour améliorer la situation vaccinale dans la Tchopo?
En dehors de nos stratégies traditionnelles que nous vaccinons en fixe, d'abord partout là où il y a des structures de soins, nous faisons aussi les avancées là où la population n'arrive pas à accéder facilement à nos structures. Et nous utilisons des stratégies mobiles. Mais en dehors de ces stratégies traditionnelles, actuellement avec notre situation des enfants zéro dose sous-vaccinés, nous arrivons à utiliser des stratégies qu'on appelle porte-à-porte en routine. Nous utilisons des stratégies de vaccination des occasions manquées partout là où se passent des consultations.
Docteur Stéphane Itamar, merci.
Oui, c'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste.
Ainsi se termine ce journal au nom de Alain Irung, Richard Junior Kamunga et Polydor Basunga. Je vous dis merci de l'avoir suivi et surtout, excellente soirée à tous.